Voix enchantées.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Voix enchantées. C'est la saison 4. On est ensemble pendant une quinzaine de minutes, voire une vingtaine de minutes. Toujours avec un ou une invitée qui vient nous parler de ses goûts artistiques, nous lire un texte personnel et en fin d'émission, partager avec nous une bribe de phrase entendue dans son entourage ou dans l'espace public. Pour ouvrir la saison, notre invitée, c'est Jeanne. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à toi. On est ravis que tu ouvres la saison 4. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu qui tu es, c'est-à-dire ce que tu fais dans la vie, si tu as des passions, si tu as un travail?
Alors moi, je suis illustratrice et dessinatrice de bande dessinée, donc je fais ça à plein temps. Je travaille surtout dans le jeunesse et on peut me retrouver dans le National Geographic Kids, par exemple. Donc, voilà.
Génial. Ouais. Et tu dessines quoi alors dans le National Geographic?
Alors, je fais une petite BD tous les mois sur un animal, sur une étude scientifique ou un truc comme ça. Donc, et on va faire des petites blagues et on va apprendre des choses et ça va être rigolo, quoi.
Et il me semble qu'on peut aussi voir ton travail sur ta page Instagram, l'arénette-art, l'arénette verte.
Oui, non mais c'est ça. J'oublie tout le temps parce que je m'en occupe pas beaucoup, j'avoue. Mais oui, du coup, on peut me retrouver aussi sur Instagram. Et de temps en temps, je poste des petits dessins ou des petites news, quoi.
Eh ben, on ira voir. On commence avec ton choix d'artiste. Comme chaque mois, l'émission, elle s'ouvre avec le choix d'un artiste qui, toi, te touche particulièrement.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire qui c'est?
Alors, c'est Rebecca Sugar. Du coup, c'est une réalisatrice de dessins animés. Pour moi, je l'ai surtout connue pour Steven Universe, du coup. En cherchant un peu sur Internet, pendant mon adolescence, j'adorais les dessins animés. J'adorais la tête qu'avaient les personnages et tout ça, et l'esthétique. Et finalement, j'ai grave accroché, quoi. Et puis, je l'ai suivie un peu sur toutes ses autres œuvres et... notamment aussi la musique qu'elle fait aussi, qu'elle fait d'ailleurs.
Du coup, Yael est un ou une artiste complète? Est-ce que c'est ça qui t'inspire?
J'admire beaucoup ça, ouais. Après, ce qui m'inspire beaucoup, c'est surtout toute sa partie quand même scénario. En fait, elle a une partie, enfin, elle a une manière de parler de ses personnages que je trouve très sensible et avec plein d'amour et de douceur que j'aime beaucoup, et beaucoup d'empathie aussi. Et ça me touche beaucoup, ouais. C'est vraiment, ça a beaucoup résonné en moi à chaque fois. Il y a des épisodes encore que je regarde parfois avec la larme à l'œil, parce que ouais, ça me touche, quoi.
Je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle Sweet Time, qui elle a sorti en 2023, parce qu'on est en septembre et que c'est cool d'avoir du Sweet Time. Everybody's headed somewhere. And they wanna get there faster, but I'm taking my sweet time. I used to be in such a hurry, so much, so quick, so sick with worry. Now I'm taking my sweet time. I don't need to solve the maze. I'll stretch like a shadow and fade like the haze. Work all day, but I won't deliver. I'll grow like a tree in the LA River. Everybody's selling something, looking for the highest bidder, but I'm taking my sweet time.
Je voulais qu'on entende un extrait musical pour la douceur, en fait. Ouais. Tu parlais d'empathie vis-à-vis de ces personnages. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot du style des dessins?
Ah oui, j'ai tellement de choses à dire. Notamment sa relation avec les corps de ses personnages, qui sont très variés et tout ça, et qui personnellement me réconcilient un petit peu aussi avec le mien finalement. Et mais je suis tellement jalouse de comment elle dessine. C'est vraiment, ça a l'air si instinctif, c'est dans tout dans le mouvement. Et j'ai l'impression vraiment qu'on ressent aussi toute la tendresse qu'elle a pour ses personnages à travers ses lignes en fait finalement.
Ça t'inspire toi aussi le côté tendresse vis-à-vis de tes propres personnages, tu l'as, tu le ressens?
Ouais, et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis autant attachée à son travail, c'est parce qu'il y a ce côté où je travaille un peu de la même manière, je pense. J'aime beaucoup avoir de l'empathie pour mes personnages, j'aime beaucoup m'accrocher à eux, et c'est parfois aussi pour ça que j'ai un peu de mal à écrire, parce qu'il faut que je me décroche un peu de moi-même aussi, parce que voilà.
Et Yael crée des mondes aussi, c'est quelque chose dont je voulais te parler, parce qu'il y a le fait de raconter des histoires, il y a le fait de dessiner, mais il y a le fait aussi de créer des mondes tout simplement, qui n'est pas le monde réel, ou peut-être qui peut s'inspirer du monde réel. Il me semble que Steven Universe est inspiré de la vie de son petit frère, en fait. Enfin, il y a quelque chose comme ça, mais complètement, peut-être fantasy aussi, qui vient croiser tout ça. Juste sur le fait de créer des mondes, j'ai l'impression que toi, tu le fais aussi.
Ouais, et à vrai dire, c'est quelque chose que je m'y suis mis un peu plus tard. J'ai beaucoup dessiné tout ça, je crée un petit peu des mondes, mais je ne m'étais jamais vraiment trop sur papier, quoi. Et du coup, je m'y suis mis un peu en étant adulte, ça me faisait un peu peur. Et du coup, j'avoue que m'inspirer de ce côté-là, justement, à prendre un événement qui t'est arrivé pour le transformer dans un monde un peu parfois fantastique aussi, que moi, j'admire beaucoup. Enfin, j'adore tout ce qui est monstre et tout ça. Enfin, donc, je trouve que c'est toujours une jolie métaphore de parler de soi à travers le fantastique et même certains médiums jeunesse aussi. Enfin, c'est un peu comme se retrouver avec son enfant... de l'époque, quoi.
Merci beaucoup. On passe maintenant à ton coup de cœur musical. Jeanne, on va écouter ton coup de cœur musical. Donc, on reste un petit peu en musique. Ouais. Est-ce que, avant qu'on écoute le morceau, tu peux nous annoncer le nom du groupe et le titre de la chanson ?
Du coup, le nom du groupe, c'est ADG et la musique, c'est Body Terror Song. I'm so sorry that you have to have a body. I'm so sorry that you have to have a body. Oh yeah, I'm very sorry that you have to have a body. One that will hurt you and be the subject of so much of your fear. It will betray you. Silence for dessert.
Alors Jeanne, pourquoi ce morceau ?
Alors, je me rends compte aussi que dans mes choix, là, ça va souvent parler du corps, finalement. Parce que là aussi, du coup, c'est un peu une chanson qui me réconcilie avec mon corps. Dans le sens où je trouve ça sympa que quelqu'un s'excuse pour une fois. Et que, ouais, enfin, parfois, surtout en tant que femme, je trouve qu'il y a des moments où je suis un peu frustrée, finalement, de mon propre corps, notamment à cause du cycle menstruel et tout ça. Enfin, aussi de comment mon corps est vu par rapport aux autres, ou même, au-delà d'être une femme, d'être malade ou des choses comme ça. Et je trouve qu'à travers cette chanson, parfois, c'est sympa de recevoir des excuses là-dessus et d'avoir de quelqu'un que tu connais pas forcément, mais qui s'apitoie presque un petit peu sur ton sort, même si, bon, en l'occurrence, ma vie va bien quand même. Mais c'est vrai que dans les moments un peu tristes, ça me fait du bien d'entendre ces paroles. Surtout que moi, en général, je consomme un peu la musique comme du fast-food. J'écoute pas trop les paroles, je les traduis même pas, ni rien. Je suis juste là pour la mélodie, je l'écoute en boucle et je m'arrête là, quoi. Et alors que là, en l'occurrence, je l'écoute vraiment et je l'assimile vraiment. Du coup, c'est vraiment une chanson dont j'aime bien parler, en fait, finalement. J'aime beaucoup ce côté aussi presque un peu berceuse pour adultes. Un petit peu.
Mais il y a un côté doux amer, j'ai l'impression aussi, parce que le corps qui est évoqué, c'est aussi un corps plein d'infections. Enfin, comme tu disais, c'est pas forcément le corps magnifique, magnifié dans la société. Au contraire, c'est voilà tout ce que ton corps contient de pas très beau, d'assez parfois monstrueux aussi. Et en fait, il dit « Je suis désolée que tu aies à avoir ce corps ». Donc en fait, c'est comme s'il te prévenait il nous prévenait que ça va pas toujours être facile avec notre corps. Donc il y a un côté aussi un peu rassurant peut-être.
Bah oui, justement, il y a ce côté un peu on te cache pas. Enfin moi, j'aime bien voir aussi les choses de manière un peu mélancolique. Je crois que ça me rassure et ça me prépare à une certaine tristesse qui peut arriver parce que tout bon moment se finit finalement. Et je pense qu'il y a un peu aussi une thématique de vieillesse presque un peu là-dedans, dans le sens sois prêt à ce que ton corps plus tard te ralentisse aussi un petit peu. Ça peut être déprimant pour certains, mais le fait de l'accepter et de finalement peut-être plus en profiter du coup aussi quand ça va mieux.
Mais il y a même une distorsion des voix et du rythme dans le morceau. Jusqu'à à la fin, des espèces de bruits presque de squelette, quoi. Enfin, on pousse jusqu'au bout. Et en fait, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté fantastique ou monstrueux. Cette chanson, elle est presque... C'est presque un monde aussi à part entière, quoi.
Oui, non, je suis totalement d'accord. Et je trouve qu'il y a un côté presque un peu théâtral, finalement, que j'aime beaucoup. Du coup, c'est vrai que je ne l'écoute pas non plus au quotidien. Je l'écoute par petites doses de temps en temps. J'aime beaucoup l'écouter avec mon copain aussi, bizarrement. C'est lui qui m'a fait aussi découvrir le groupe, donc ce n'est pas si bizarre. Mais ouais, j'aime bien cette atmosphère un peu mélancolique de monstre, finalement, auquel je m'identifie pas mal, parce que... Parfois, je ne m'identifie pas tellement en tant que fille comme on pourrait le montrer dans beaucoup de médias, finalement, qu'on voit. Ouais, en vrai, le monstre, je trouve ça pas mal. C'est souvent qu'on associe au masculin, d'ailleurs, je trouve, plus qu'au féminin, qu'on féminise très vite.
Qu'on objectifie, qu'on regarde.
Voilà, et du coup, ouais, cette chanson, elle me réconcilie un petit peu avec ça aussi, avec le regard des autres aussi.
On continue avec ton partage de texte. Jeanne, merci d'avoir accepté de lire un texte que tu as écrit. Est-ce que tu peux nous le contextualiser un petit peu, c'est-à-dire nous dire si tu l'as écrit avant l'émission, pour l'émission spécifiquement, ou bien avant, dans ton adolescence ?
Je l'ai plutôt écrit spécifiquement pour l'émission, parce que en l'occurrence, moi, je dessine plus quand je m'exprime, du coup, et je fais de la bande dessinée. Donc en général, l'image se répond pas mal... au texte, et du coup je trouve ça moins intéressant à la radio d'en parler, mais du coup c'était quand même quelque chose que je voulais un peu illustrer un peu à la Calvin et Hobbes, où en fait c'est un dessinateur de BD qui parfois met un texte et juste quelques images illustrées, et en soi le texte peut se lire un peu tout seul. Bon, il fait aussi de la BD en l'occurrence, mais je trouvais ce format un peu sympa et j'avais envie de l'essayer, et c'était un peu l'occasion, quoi.
Merci beaucoup, on t'écoute.
L'exercice consistait à peindre un joli paysage provençal à la gouache. Pour une fois que ce n'était pas des calculs ou une dictée, j'étais ravie. C'était mon domaine. J'avais plutôt l'habitude de dessiner des dracs au feu ou des bulles bizarres que des cyprès, mais Aix-en-Provence et Paul Cézanne inspiraient plus la maîtresse que Pokémon. J'ai été tentée d'ajouter une Pokéball ou un Tortank dans le fond, mais j'étais déterminée à faire comme les plus grands maîtres de l'impressionnisme. Je me suis vraiment bien appliquée à peindre mes magnifiques cyprès d'un vert vif, et je n'ai pas oublié mes champs de lavande. J'y ai juste ajouté un soleil jaune et rayonnant, un incontournable symbole de mon style encore très avant-gardiste. Après l'école, j'ai pensé à mon œuvre tout le chemin du retour, notamment de l'impact qu'il aura sur le public lorsqu'il sera exposé au Louvre, juste à côté de la Joconde. Un scandale qui ravira l'œil expérimenté des meilleurs critiques d'art contemporain, tel un nouveau Marcel Duchamp. J'avais très hâte de rentrer à la maison pour te le montrer. Quand je suis arrivée dans ton bureau, j'avoue que je ne faisais plus vraiment la fière. J'étais devant cette énorme table en verre, pleine de dossiers, dans une pièce remplie de grands tableaux de ta création. C'était d'immenses toiles avec de sombres textures abstraites qui me faisaient penser à des carcasses d'animaux laissées au bord de la route. Je pouvais les voir juger les couleurs de mes magnifiques champs de lavande, faits de jolis pâtés de gouache d'un violet aveuglant. Je t'ai tendu mon œuvre, que tu as délicatement pris dans tes mains. Le silence m'a paru interminable, mais tu as finalement sorti une phrase. « J'aime pas trop, ce n'est pas toi. » C'est après cette simple analyse que je suis sortie de ton bureau avec qu'une seule pensée. J'aurais dû mettre un drac au feu. Maudit sois-tu, Paul Cézanne.
Merci beaucoup, Jeanne, pour ton partage de texte qui, en fait, nous a dévoilé ton rapport au dessin, en fait, depuis petite.
Bah oui, alors je trouve qu'il y a quand même un côté un peu doux amer aussi. J'espère que c'est quand même drôle.
Qui ne te quitte pas.
Oui. Ouais, je crois que ça va rester. Mais ouais, donc c'était aussi la première fois que j'écrivais entièrement un texte, donc... C'était un exercice assez fun, mine de rien, au début. C'est aussi mon rapport aussi un peu avec mon père, qui m'a quand même pas mal introduit à tout ça, que je regarde un peu avec humour maintenant, finalement.
On passe maintenant à ton œuvre phare. Donc, c'est pas une œuvre qui sort de toi, mais une œuvre que tu as pu voir, que tu as pu écouter. Qu'est-ce que tu as choisi comme style d'art ?
Alors, jusqu'ici, c'était très américain, mes choix. Et là, j'ai choisi un truc un peu français, et surtout de la bande dessinée, parce que... Bah, j'en fais.
On ne change pas
ça.
Une équipe qui gagne.
C'est exactement ça. Et du coup, j'ai choisi Beauté de Hubert et de Carasquet. J'arrive jamais à dire correctement le.
Carasquet.
Carasquet, oui. À chaque fois, je suis toujours un peu hésitante, quoi. C'est l'histoire, du coup, d'une jeune fille qui s'appelle Moru, qui est pas très belle et qui va par hasard tomber sur une fée et qui va l'aider et elle va se voir accorder. Un vœu, du coup, où elle va demander à être la plus belle, finalement. Et à partir de là, il va lui arriver beaucoup de choses, et des bonnes et surtout des mauvaises choses, à vrai dire. Elle a quand même une fin très optimiste, que j'aime beaucoup, et surtout dans l'utilisation de cette beauté, justement. Elle passe par plein de thèmes, c'est vraiment super, quoi. J'ai vraiment adoré. Aussi de solidarité féminine, aussi, à un certain moment. Trahison, évidemment, un peu de viol, aussi. C'est jamais montré directement, mais on le sait quand même. Je parle beaucoup du scénario aussi, mais j'avoue que le dessin, c'est magnifique, quoi.
Tu veux nous en dire un mot du dessin ?
Ah, au niveau des couleurs aussi, au niveau de la mise en scène, notamment pour représenter Beauté quand elle est vue par les autres et vue par elle-même. Elle ne va pas être dessinée de la même manière, ce que je trouve super sympa, du coup, justement, pour à chaque fois d'être amenée à ce qu'elle est vraiment et comment les autres l'aperçoivent, en fait.
Et il y a de l'humour, tu dirais, dans la BD ? Parce que quand même, de passer de s'appeler Moru à Beauté...
Oui, je pense qu'il y a un peu d'humour, mais un humour un peu comme on verrait dans un conte, finalement. Dans le sens où c'est pas la blague qui tombe comme ça et tu fais « Ah, c'est trop rigolo, quoi ». Mais c'est plus...
C'est subtil.
Oui, c'est à travers des mots, c'est à travers des situations, des tournures de phrases et... Ouais, c'est plutôt là-dessus qu'on va retrouver un peu de l'humour dans Beauté qui est présent quand même, mine de rien.
Et est-ce qu'on sent que c'est un travail collectif ? Parce que Carasquet, en fait, c'est un couple, j'ai regardé ça, et Hubert, donc ça fait 3 personnes pour une BD. Est-ce que toi, tu pourrais dire qu'on sent qu'il y a différentes personnes, différents styles ?
Ben, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que je trouve que tout s'en mêle tellement bien que, ben, en fait, je dirais pas tellement. On dirait une seule personne. Mais j'avoue que j'aimerais bien aussi avoir cette relation à deux, finalement, parce que moi, je sors aussi avec un artiste. Du coup, on travaille souvent ensemble et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'admire aussi beaucoup de réussir à
bah, travailler ensemble au point que bah, on n'a pas l'impression, quoi. On a l'impression d'une personne, quoi.
Merci. On passe maintenant à ta bribe de phrase. C'est la dernière étape de l'émission, celle de la bribe de phrase que tu as pu entendre dans ton entourage, dans l'espace public ou privé, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est très libre. En fait, c'est une phrase, un bout de conversation que tu as entendu comme ça, que tu as attrapé au vol. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que c'était, avec qui et surtout la phrase?
Alors, c'était cet été. Alors, quand je me rappelle plus trop, je pense que c'est une des nombreuses fois où on buvait en terrasse et on rigolait bien et tout ça. Et on parlait de religion, parce que c'est un thème qu'on aime bien parler, tout simplement. C'est parfois un peu marrant, on s'en moque ainsi un peu parfois, mais toujours gentiment, hein, mais en reparlant surtout des légendes, en fait, et des choses comme ça. Et là, cette fois-ci, on parlait d'une légende, c'est l'histoire de Caïn et Abel. C'est Dieu qui préfère, du coup, je ne sais plus si c'est Caïn ou Abel, du coup, en l'occurrence, qui élève les moutons, alors que l'autre est agriculteur. Et on débattait sur le fait que finalement, bah, c'était quand même plus dur d'être agriculteur et que ce n'était pas très juste de la part de Dieu de autant préférer l'un que l'autre, alors que le travail n'était pas le même. Et il y a finalement un de mes amis qui m'a sorti une phrase, c'était « oui, de toute façon, les moutons, ça se cultive tout seul, quoi. » Et j'ai bien aimé cette phrase que j'ai fini par noter parce que je la trouvais très mignonne, finalement. Ce qui est sûrement pas vrai, hein. Je respecte le travail des personnes qui s'occupent de tous ces petits moutons. Ça a l'air aussi d'être un gros boulot, hein, je dis pas.
Mais je crois que j'ai déjà entendu que, pour le coup, les moutons étaient vachement autonomes. Ah. Sans mauvais jeu de mots, vachement autonomes.
Bah écoute, du coup, effectivement, ça se cultive tout seul, quoi. Mmh. Donc,
c'est une phrase qui pourrait apparaître dans une bulle de BD, d'ailleurs.
Oui, non, mais en général, je les note maintenant pour les garder comme idée, parce que ouais, parfois, tu peux pas les inventer, quoi.
Big up à tous les moutons de ce monde. Et merci beaucoup, Jeanne, d'avoir été la voix enchantée du mois de septembre 2024.
Merci à vous.
À la réalisation, c'était Rosalie Berne. On se retrouve le mardi 22 octobre à 18h sur Radio Campus Paris 93.9.